Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Les filles de La Rochelle.
Les filles de La Rochelle.
Ce sera in situ ce soir dans le rendez-vous, une émission spéciale Festival du film de La Rochelle, 43e édition. Alors sur France Culture et en studio à France Bleu La Rochelle, il sera question de cinéma familial, d'Iran, de Cuba, de Piala, de Borman, d'Elman et peut-être même de Satajitré. Avec la rétrospective Malmak Baf, portrait d'une famille de cinéma et au-delà d'un pan du cinéma iranien en exil, au programme réalisme poétique et activisme de la non-violence, 19h30, gros plan sur le festival avec sa déléguée générale Prune Anglaire et Stanislas Bouvier, qui signe depuis 25 ans l'affiche du festival. Ce sera l'invité du questionnaire du lundi de Manu Farine. Benoît.
À leur côté, le cinéaste, acteur et cinéphile Jean-François Stevenin.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfèze depuis Radio France. Et on ouvre bien sûr sur le son du jour.
C'est mon parcours, frère, ok. T'en as même pas de la chère ou ma nouvelle, je t'en ai même pas de la chère ou ma nouvelle, je t'en ai même pas de la chère ou ma nouvelle, je t'en ai même pas de la chère ou ma nouvelle, je t'en ai même pas de la chère ou ma nouvelle.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ce qu'on entend là, c'est un extrait de l'un des derniers tubes du rappeur tunisien Emino, l'un des protagonistes de la scène rap tunisienne, qui défendait dans ses textes la liberté sous toutes ses formes, dénonçait les violences policières, jusqu'à ce qu'il décide de rejoindre l'État islamique en mars dernier. Et de cesser de rapper, hier, il a félicité dans un tweet l'auteur de l'attentat contre un hôtel de Sousse, vendredi dernier, qui a fait 38 morts. Selon son ancien avocat, Emino a basculé vers l'islam radical après avoir fait l'objet d'une condamnation de prison ferme particulièrement lourde en 2013 pour consommation de cannabis. Tout de suite, c'est le dossier du jour consacré à un dossier assez technique, mais très crucial pour l'avenir du documentaire en France. En effet, le Centre National de la Cinématographie, le CNC, a décidé il y a 6 mois de réformer le COSIP. Le COSIP, c'est son fonds de soutien aux documentaires télévisuels, un soutien indispensable pour l'économie des documentaires et notamment pour les producteurs. Ce fameux COSIP, il a fait l'objet donc il y a 6 mois d'une réforme, aujourd'hui contestée par une partie des producteurs. Dans un contexte où avec l'explosion de la TNT, ce qu'on appelle le documentaire a explosé avec des formes très diverses et variées. Le but pour le CNC, avec cette réforme, c'était de réaffirmer sa volonté d'encourager des documentaires de création et pourquoi pas d'écarter ou d'aider moins les contenus qui se réclament de l'appellation documentaire mais qui relèvent plus du magazine ou du reportage, comme nous l'explique Christophe Tardieu, directeur général adjoint du CNC.
La question qui s'est posée à travers cette réforme, c'était justement comment adapter le soutien du CNC à ces nouveaux formats, en sachant que l'ADN du CNC, d'une certaine façon, c'est de soutenir ce qu'on va appeler des documentaires de création, c'est-à-dire lorsqu'il y a une écriture, une volonté manifeste, qu'on n'est pas uniquement dans le fait de relater des faits. De manière concrète et très pratique, il y a la définition d'abord de ce qu'est un documentaire de création. Donc sur cette base, nous avons défini un certain nombre de critères de bonification du soutien, c'est-à-dire qu'on va augmenter le soutien si, par exemple, le temps de montage est supérieur à quelques semaines, si, par exemple, il y a une musique originale dans le programme. Donc tout ça permet d'avoir des bonifications et avec une bonification en plus supplémentaire qui porte sur des documentaires de création historique ou scientifique, parce que c'est là où il y a un peu une école française du documentaire de bonne qualité qui par ailleurs attire beaucoup les investisseurs étrangers et les diffuseurs étrangers.
Alors si dans leur majorité les producteurs étaient plutôt d'accord sur le principe de cette réforme, sur sa philosophie qui devait les aider à monter en gamme, beaucoup critiquent aujourd'hui sa mise en œuvre et l'ont fait savoir lors du dernier marché international du documentaire à La Rochelle, c'était la semaine dernière. Pour eux, la nouvelle commission, au lieu en fait d'encourager une montée en gamme avec le système de bonification, a carrément décidé d'exclure certains formats de la définition même du documentaire, comme par exemple la série « J'irai dormir chez vous » d'Antoine de Maximi, sur des critères mal définis. Les bonus qui devaient être accordés aux docs d'histoire et de science, là aussi, ne semblent pas très clairs. Les producteurs soupçonnent tout simplement le CNC d'avoir voulu imposer sa propre définition du documentaire et de laisser les producteurs qui comptaient sur ces aides dans une situation financière dangereuse. Juliette Prissard est la patronne du syndicat des producteurs indépendants.
Ce qui est important important, c'est que le producteur sache à l'avance, lorsqu'il monte le financement de son œuvre, de combien il dispose pour faire son œuvre. Et pour ça, il faut qu'il connaisse les règles du CNC. Le plus angoissant pour les producteurs, c'est que le CNC aujourd'hui navigue à vue et a une mise en œuvre de la réforme qui n'est pas encore calée. Ça dure dans le temps et ça met les sociétés dans une grande précarité. Et enfin, le dernier point, lors de la réforme du COSIP, il a été décidé qu'on n'aurait pas droit au COSIP automatique, le COSIP qui permet d'avoir de l'argent disponible à tout moment, qui correspond aux œuvres qu'on a produites et qui ont été diffusées. Ce COSIP automatique n'est disponible que si vous avez généré 70 000 euros. Avant, c'était 40 000, c'est passé d'un seul coup à 70 000 et ça a mis dans des difficultés très importantes un certain nombre de producteurs qui produisaient un à deux documentaires par an, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon artisanale. Et par ailleurs, comme le gouvernement passe son temps à dire qu'il y a trop de producteurs, la profession commence à dire, mais alors est-ce que tout ça n'est pas un agenda pour finalement éliminer les producteurs et concentrer le secteur vers une plus grande industrialisation?
Les producteurs qui demandent donc aujourd'hui plus de lisibilité, Christophe Hardieu, directeur général adjoint du CNC, dit entendre leur inquiétude, mais refuse d'être accusé de vouloir formater le documentaire.
Ce qu'on entend moins, naturellement, c'est lorsque on nous explique qu'on veut tuer la création ou qu'on veut pas, ou qu'on veut concentrer tout notre soutien dans certains types de documentaires. Ça, je pense que de toute façon, ça non seulement c'est faux, mais en plus, toute l'histoire du CNC et toute l'histoire du documentaire démontrent le contraire. La progression du soutien du CNC au documentaire, dans sa très grande variété, n'a cessé de croître depuis les 10 dernières années, dans des proportions extrêmement importantes. Donc on a toujours accompagné ce mouvement, et naturellement, on va continuer. Là, en l'espèce, il suffit de lire les textes. On a volontairement, on a omis de définir le documentaire de création pour que justement ne pas se laisser enfermer par une définition qui pourrait au bout d'un moment devenir trop rigide.
Christophe Tarduc assume tout à fait au demeurant de moins aider grâce à cette réforme des documentaires qui relevaient plus du reportage ou du magazine pur. L'autre grief des producteurs contre cette réforme reste qu'elle occasionne un trop long temps de traitement des dossiers. Sur ce point, Christophe Tarduc reconnaît le problème et s'est engagé à améliorer les choses. Et on termine par une petite brève et sur ce chiffre assez heureux, ce record du festival Solidays qui s'est refermé dimanche avec un bilan record. 180 000 personnes ont assisté au festival. Record de bénéfices aussi qui passe de 2 400 000 euros en 2014 à 2 600 000 en 2015. Tous ces bénéfices seront reversés évidemment à la lutte contre le sida.
19-20, La Rochelle. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Eh bien, plateau rétrospective avec vous, Merzieh, Moshem et Merziam Makhmalbaf, une famille de cinéma d'origine iranienne exilée en Europe depuis plusieurs années, liée au festival. 18 films signés Makhmalbaf, père, épouse, fille et fils, sont présentés ici à La Rochelle. Ensemble, vous travaillez au sein de la maison de production Makhmalbaf Film House. Quelle serait la ligne éditoriale de cette maison, l'esprit qui l'anime aujourd'hui ? Moshem, vous qui êtes le père de famille, père de cinéma.
Nous sommes une famille de 5, comme toutes les autres familles de 5, sauf qu'il se trouve que notre intérêt principal est la culture et le cinéma. En tant que père, j'ai essayé d'enseigner, de transmettre le cinéma à mes enfants. Et une fois qu'ils ont appris, on est devenus des collaborateurs.
Mesdames, qu'est-ce que votre père vous a appris? Puisque je sais qu'à un moment donné dans votre parcours, notamment scolaire, votre père vous a sorti de l'école où on ne vous enseignait que l'islam et a fait votre propre formation. De quoi était-il question? Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Oui,
c'est vrai que l'école à la maison a commencé tôt pour nous. C'est ma sœur qui a déclenché ce phénomène, Samira. Où un jour elle s'est lassée de l'école islamique et elle avait envie d'apprendre ce qui lui plaisait. Et elle a demandé explicitement à mon père qu'il nous enseigne le cinéma. Cet enseignement a été très varié. D'une part, c'était la technique du cinéma. Par exemple, le montage ou la photo, comprendre l'image, analyser l'image. Mais il y avait aussi d'autres aspects sur les sciences humaines ou juste la vision de la vie et du monde. Philosophie, mysticisme. Même la cuisine nous a été enseignée pour qu'on soit capable de subvenir à nos besoins.
Merzier, justement, la mère de famille, comment vous avez compris cette éducation et à quel niveau vous y avez aussi participé sur le plan cinématographique ?
Je dois dire qu'il y avait quelque chose de très spécifique à notre famille de cinq, quand même. Ce qui était différent chez nous, c'est que dans notre famille, n'a pas été une famille paternaliste. Notre société est très patriarcale. L'homme prédomine la famille et la femme passe au second plan, alors que chez nous, mon mari a partagé avec nous ce qui était sa passion et son amour. Et ce que moi j'ai appris à travers cet enseignement, c'est l'amour de la famille qui s'est transformé en amour du cinéma.
C'est ce qu'on appelle véritablement un cinéma familial. Benoît Lagan.
Homosen, au départ, il y a eu un engagement politique contre le Shah. Vous avez été emprisonné à 17 ans, entre 74 et 79. Vous avez été en contact avec des groupuscules religieux et politiques. Comment avez-vous alors basculé du côté de la défense de la culture en devenant d'abord romancier et puis ensuite cinéaste dans les années 80?
À l'époque, il me semblait que si le Shah partait et qu'une révolution avait lieu, l'Iran deviendrait un vrai paradis. Mais au bout de 2 ou 3 ans, nous avons tous été assez désenchantés. On a vu que le paradis se transformait en enfer. Et j'ai compris que notre problème politique avait des racines culturelles. Et qu'il fallait changer la mentalité du peuple et ceux qui nourrissent les dictatures. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à faire des films pour que ce soit un outil qui permette de changer la société. J'ai fait le choix d'un cinéma qui soit le miroir de la société pour que les gens puissent se voir et se corriger, s'améliorer. Donc, petit à petit, évidemment, nos travaux ont rencontré la censure. Et donc, j'ai finalement dû quitter l'Iran.
De quel ordre était votre premier geste de cinéma? Je vous pose cette question parce que je sais que vous étiez très religieux. Comment, à l'époque, pouviez-vous concilier le cinéma et cet engagement religieux?
Quand j'étais enfant, c'est ma grand-mère qui était très pieuse qui m'a élevée. Elle me disait qu'aller au cinéma, c'était aller en enfer. Écouter de la musique, c'était aller en enfer. Regarder une jolie fille, c'était aller en enfer. Et donc, je passais mon temps à me boucher les oreilles, à me fermer les yeux quand je marchais dans la rue. Mais une fois que j'ai été libéré de prison, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et le cinéma a eu un impact très fort sur moi. Mon esprit était pur, vierge quant au cinéma. Et j'ai compris en quoi c'était un outil extrêmement puissant pour changer les autres.
Merzier, vous veniez d'une famille aussi où la religion était très très importante. Et comment vous avez vu justement la progression, même dans le cinéma, de votre mari, puisqu'au fur et à mesure, à partir notamment des années 90, qu'il y a eu un effet de bascule quant à ce positionnement religieux.
Je pense que quand on est né en Iran, qu'on le veuille ou non, on est musulman.
Bien sûr.
Et qu'on le veuille ou non, la religion est présente dans vos vies. Aussi bien pendant l'enfance que plus tard, au cours de l'existence. Donc je ne peux pas dire que je ne vienne pas d'une famille religieuse. Mais ce que je peux dire, c'est l'évolution qu'a connue Mohsen après les années 90, a été de l'ordre humain existentiel. Donc parfois il y a eu un aspect religieux à cette évolution, mais petit à petit son regard a changé. Et l'évolution et le mouvement et la spécificité de Mohsen.
Benoît.
Mohsen, donc vous ne saviez rien au cinéma, et donc pour mieux connaître le cinéma à l'époque, vous allez beaucoup visionner d'images aux archives du cinéma iranien. Vous allez y voir à la fois des classiques du cinéma iranien, mais aussi ceux du monde entier. Quels sont les films que vous avez vus alors et qui vous ont aidé à construire votre propre cinéma ?
Plutôt que de voir des films, je crois que j'ai commencé à lire des livres sur le cinéma. Parce qu'au début de la Révolution, la censure faisait rage et il y avait peu d'images qui soient vraiment accessibles. Mais j'ai lu 400 livres traduits d'analyse de cinéma, d'essais sur le cinéma que j'achetais ou que j'empruntais. Et j'ai passé 6 mois de ma vie à lire ces livres. Donc j'ai connu le cinéma par la porte de la théorie. Mais les films que j'ai fini par voir et qui m'ont beaucoup marqué a été Patel Panchali de Satyajit Ray, Le voleur de bicyclette de Desika ou La Strada de Fellini, ou Dodeskaden de Kurosawa. Mais je pense que la vie m'a inspiré davantage que le cinéma.
Et de votre côté, Messam, vous, le fils de famille, quel est le cinéma qui vous a fondé parmi les films que vous a montré votre père, mais aussi votre propre regard sur le cinéma ?
À la maison, en fait, ce que faisait mon père, il nous apprenait à regarder le cinéma plutôt que de l'imiter.
Il
nous a appris à porter un regard spécifique sur le cinéma, mais aussi sur la vie. Et puis essayer de dégager ce qui résonne en nous pour l'exprimer avec notre propre langage. Donc c'est pour ça que quand vous regardez les films que nous faisons tous, ils sont différents les uns des autres. Même les films de mon père lui-même ont beaucoup évolué à travers les étapes de sa propre vie. Mes deux sœurs et moi-même, nous avons tous appris le cinéma à la même école, avec le même enseignant. Et pourtant, les films que nous avons produits sont très différents.
Quel est le film de votre père qui vous aura plus particulièrement marqué ?
J'aime tous les films de mon père,
bien
c'est
sûr.
Difficile de choisir.
Allez, choisissez-en un qui aurait été.
Mais parce qu'ils sont très différents, justement, c'est difficile d'en distinguer. Mais quand même, voilà. Il y en a un que je dois pouvoir nommer. C'est un moment d'innocence, un instant d'innocence.
Et vous savez pourquoi ?
Peut-être parce qu'il y a une certaine innovation structurelle du cinéma dedans. Et en même temps, il y a une part très biographique de la vie de mon père. Et c'est intéressant de voir que 20 ans plus tard, ce film continue de circuler dans le monde.
Un mot sur ce film-là précisément, Mohsen, que votre fils a distingué.
Je suis assez surpris. Je me demande pourquoi 20 ans après, on continue d'inviter ce film partout. Puisque quand il est sorti, il est plutôt passé inaperçu.
De quoi parle ce film ?
C'est un film sur moi. À l'âge de 17 ans, j'ai attaqué un policier pour essayer de le désarmer et il m'a tiré dessus. 20 ans plus tard, il y avait un procès et donc ce policier dans la reconstitution est un acteur. Et donc, nous commençons à jouer ensemble le film de la même scène. Et le cinéma permet une amitié entre deux adversaires, deux ennemis. Finalement, c'est la démonstration que l'art permet de dépasser l'animosité de la politique et le transformer en amour.
Benoît.
Et pour autant, il y a plusieurs genres travaillés, mais une marque quand même familiale, c'est jouer dans votre cinéma sur la frontière entre la fiction et le réel. Comment ce réalisme poétique notamment s'est imposé dans vos cinémas ? À vous, bien évidemment, Mohsen, mais aussi à ceux de vos enfants.
Nous avons vécu une révolution et le mensonge a dominé dans cette culture et dans ce pays. Donc il s'agissait avant tout de faire un cinéma réaliste pour casser le mensonge. Mais par ailleurs, il existe 30 000 ouvrages de poésie dans la culture iranienne. L'Occident est la terre de la peinture, l'Iran est la terre de la poésie. Donc l'élan réaliste d'une part et l'histoire poétique ont donné cette combinaison de réalisme poétique à laquelle vous faites allusion.
Merzier, Moshem, Miziem, je sais que l'exil dure depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce que vous espérez dans l'avenir, Merzier par exemple ?
Sur un plan personnel, je n'ai pas d'aspiration particulière. Mais j'ai un rêve de liberté pour mon pays. S'il fallait que je formule un vœu, et si j'avais la possibilité de changer quelque chose, je pense que mon premier désir serait la liberté pour le peuple de mon pays.
Moshem ?
Moi aussi, mon souhait est le même. Mais je voudrais d'abord que les Iraniens se débarrassent de la superstition. Parce que je crois que tous nos problèmes politiques s'enracinent dans la culture iranienne. Et puis, j'ai un souhait plus vaste, c'est que les peuples du monde aient moins recours à la violence.
Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les autres cinéastes iraniens qui sont restés au pays ?
Oui, nous nous croisons
dans les festivals,
nous nous parlons parfois au téléphone.
Votre première venue ici, plutôt votre première venue, n'a pas eu lieu à ce festival ici à La Rochelle. Vous aviez été invité il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'était passé, Moshem Akbalbaf ?
C'était l'époque où une des façons de faire de la censure en Iran était de sélectionner ceux qu'ils jugeaient dignes de se rendre dans les festivals. Donc, beaucoup de festivals m'invitaient à l'époque et je ne l'apprenais même pas. Et l'État ne nous laissait pas en être informés. C'est quelques années plus tard que j'ai su qu'il y avait une rétrospective de mes films ici.
Prune Onglert, vous qui êtes la déléguée générale, vous vous souvenez de cette époque du festival ?
Oui, nous aimions beaucoup les films de Mohsen. Nous avions décidé de les montrer, de lui rendre hommage. Nous l'avons invité et nous n'avons jamais obtenu de réponse. Donc nous avons imaginé qu'il n'était pas libre ou qu'il n'était pas intéressé. Nous ne pouvions pas imaginer qu'il n'avait même pas été averti de cette invitation. C'était impensable pour nous. Et donc, voilà, c'était dommage, on s'est dit, il n'est pas là, c'est dommage. Et puis, on s'est rencontrés depuis dans un festival en particulier. Et donc, nous avons reparlé de cet épisode et c'est là que j'ai découvert que Mohsen Akbalbaf n'avait pas eu connaissance de son invitation au Festival de La Rochelle.
Eh bien, aujourd'hui, le rendez-vous est pris puisque vous êtes là pour cette rétrospective. Merci à vous trois, on continue tout de suite. Vous restez avec nous, Prune.
Le rendez-vous. La Rochelle. Extérieur.
Focus Festival avec vous, Prune Onglert, directrice générale du Festival international du film de La Rochelle, créé en 73, 43e édition d'un événement que vous connaissez bien, puisque vous êtes arrivé là en 77, après avoir répondu à une question sur le cinéaste indien Satyajit Ray, c'est ça ?
Oui, c'était mon entretien d'embauche. J'ai rencontré Jean-Loup Passec, qui était le directeur du festival, par l'entremise d'une amie qui partait vivre en Australie et qui avait dit à Jean-Loup, ben voilà, je te présente Prune, c'est elle qui va continuer à travailler avec toi à ma place. Et il lui a dit, bon, ben, il faut quand même que je la rencontre. Donc, on a pris rendez-vous. Il me dit, quel est le plus grand cinéaste indien? Je lui dis, ben, Satya Jitré. Oui, mais savez-vous les plaies? Oui, je l'ai épelé. Je ne sais pas si je saurai encore le faire aujourd'hui. Et il m'a dit, vous êtes engagé.
C'est parfait. Le fait d'entrer comme première salariée de ce festival en évoquant ce nom-là, qu'est-ce que cela disait de votre culture cinéphilique de l'époque et de l'état d'esprit de ce festival atypique, très cinéphile, quand on voit aujourd'hui des salles, par exemple, remplies comme hier, avec 1000 personnes en train de regarder un film muet pendant 2h45, on se dit qu'il se passe véritablement quelque chose ici qu'on ne voit pas ailleurs.
Eh bien, cette année-là, c'était 1977. Le festival n'était pas encore autonome en tant que festival de cinéma. Il appartenait à ce qu'on appelait les rencontres internationales d'art contemporain. Et en fait, il n'en constituait qu'une petite partie. Il y avait surtout du spectacle vivant, de la musique, du théâtre. Et vraiment, le cinéma était très, très minoritaire dans cette organisation. Et puis, le gros festival, entre guillemets, a fait faillite. Et le cinéma, ne perdant pas d'argent, n'en gagnant pas non plus, mais équilibrant son budget.
Vous vous êtes débarrassé de tout le reste.
Nous sommes restés. Il se trouve que nous sommes restés. Et nous avons continué notre petit bonhomme de chemin. Au début, c'était quand même un festival qui ne montrait pas tant de films qu'aujourd'hui, bien sûr. Nous étions spécialisés par les goûts et les intérêts de Jean-Loup Passec. Nous étions plus sur le cinéma des pays de l'Est, russe, polonais, etc. Et puis, très progressivement, le festival s'est développé, a montré évidemment des films du monde entier. Mais dès le départ, ce qui est quand même singulier, c'est que dès le départ, il y avait déjà ce choix de ne pas faire de compétition, que nous avons gardé, bien sûr, et puis de présenter les films et les cinéastes sur un plan d'égalité.
Tout de suite, je vous garde avec nous, Prune, pour le questionnaire autoportrait du lundi. Dans la série Les professionnels de la profession, c'est Manu Farine qui a rencontré le peintre Stanislas Bouvier, illustrateur, affichiste, qui signe depuis 25 ans l'affiche de votre festival. Questionnaire dessin. Stanislas Bouvier, Manu Farine.
L'illustrateur de votre enfance.
Alors, l'illustrateur de mon enfance, je dirais Gustave Doré, bien sûr, pour les contes de Perrault, et puis Granville. Je pense que Granville est encore plus intéressant à mes yeux que Gustave Doré, parce que plus étrange et avec une certaine folie.
L'œuvre ou l'image dont vous vous souvenez chez vous, enfant?
Alors, c'est plutôt chez ma grand-mère. Ma grand-mère avait hérité d'une collection de tableaux. Et donc, toutes ces œuvres qui étaient accrochées dans son appartement, qui était un appartement absolument viscontien, me sont restées évidemment en mémoire. Des portraits, une grande marine et toutes sortes de choses qui étaient vraiment, pour un enfant, absolument fascinantes.
Première commande.
Un portrait de James Joyce, qui a été publié dans le magazine littéraire. Moi, j'avais un peu plus de 20 ans. J'avais intégré une sorte de spirale dans sa physionomie. C'était une façon pour moi d'évoquer cette littérature assez complexe.
L'illustrateur ou le peintre que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
Eh bien, peut-être Friedrich. Même si c'est un immense peintre, un immense aquarelliste aussi, un très grand dessinateur. Mais je préfère au tourment du romantisme allemand, une certaine mesure française.
L'illustrateur ou le peintre que vous avez fini par aimer ou que vous avez appris à aimer?
Je pense à Cézanne, qui peut paraître assez laborieux, un peu lourd. Et pourtant, quand on apprend à le connaître, on l'aime beaucoup, notamment sur la fin qui est, à mes yeux, éblouissante. Toutes les versions de la Montagne Sainte-Victoire, par exemple, de la fin me semblent lumineuse.
L'illustrateur que vous auriez aimé rencontrer?
Alors, il y a un illustrateur américain qui a fait les beaux jours du New York Times dans les années 70, et c'est Brad Holland, qui était capable de faire des dessins de presse extrêmement vigoureux à la plume et en même temps des choses peintes, plus subtiles, plus nuancées, et qui est un très grand dessinateur.
Ce qui, dans votre parcours, a changé dans l'exercice de votre métier?
Ce qui a changé, c'est Photoshop. Photoshop a profondément bouleversé la profession. Je crois que c'est Massin qui dit que Photoshop est sans doute devenu le directeur artistique international.
Un professeur qui aura été décisif pour vous ?
Incontestablement, Roman Sislevich, qui était mon professeur à Penningen, mon directeur de diplôme. Sislevich était un graphiste d'origine polonaise, très influencé par le constructivisme. Il était l'auteur des affiches pour les grandes expositions qu'organisait le Centre Pompidou dans les années 70 et 80. Je pense à Paris-Berlin, Paris-Moscou, les réalismes, etc. Il était également un maître du collage, d'inspiration surréaliste, on peut dire, dans la lignée de Max Ernst ou Hartfield. Et c'est lui qui m'a orienté vers la voie que j'ai suivie. On parle d'oreille absolue, mais lui avait l'œil absolu. Un sens du cadrage qu'il pouvait transmettre à ses élèves, qui était un don précieux, oui.
Dernière affiche pour le Festival de La Rochelle.
C'est la Musidora de Feuillade que j'ai dotée d'elle, qui la transforme et renforce le caractère mythique de cette créature en collant noir et moulant qui a enflammé l'esprit des surréalistes.
Stanislas Bouvier, merci.
Prune Anglaire, la déléguée générale de ce festival, une réaction à ce que vous venez d'entendre de la part de votre affichiste?
Eh bien, cet affichiste qui est également un ami, après 25 ans de collaboration, on se connaît très bien et je suis heureuse que, au fur et à mesure, il se soit rapproché finalement de la programmation, parce qu'il a toujours eu carte blanche de toute façon. On lui a toujours dit de faire ce qu'il voulait faire. Il connaît bien le festival et il en est un peu le portraitiste, mais d'une manière détournée jusqu'à ces dernières années. Et on s'aperçoit qu'il s'approche de plus en plus de certains acteurs. L'an dernier, l'affiche était une évocation lointaine, mais néanmoins réelle, de Anna Chigoula, qui était notre invitée principale. Et cette année, évidemment, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au cinéma primitif. Et comme nous fêtions les 120 ans de La Gaumont, il a senti que, évidemment, on avait envie qu'il se rapproche de cet élément de programmation qui était Feuillade et Musidora. Et il nous a livrer une très très belle interprétation du personnage de Musidora. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va conserver son regard inquiétant et sombre.
Benoît.
Alors vous êtes fille d'électricien et d'une femme de ménage, vous me corrigez si je me trompe, vous avez grandi dans le 5e arrondissement à Paris, non loin de plusieurs cinémas de quartier très animés, notamment le Champollion. À quel moment le cinéma s'est imposé à vous comme activité principale ?
Oh, comme activité principale, très tôt, puisque j'ai fait énormément de petits boulots dans le domaine du cinéma, justement. Donc, j'étais aide costumière, aide script, enfin, tout ce qui était possible de faire. J'ai l'impression que c'était plus facile que maintenant de trouver des petits stages sur les tournages.
Vous étiez aussi assistante à la mise en scène, je crois.
Oui, seconde assistante.
Aide à l'assistante. aide à l'assistante. Pour qui ?
Eh bien, pour Hugo Santiago, pour... oh là là, excusez-moi, cette question me trouble. Et comme c'était il y a très longtemps, j'arrive pas à retrouver Jacques Fanstein, André Téchiné.
Voilà. Ah, quand même, donc une vraie famille de cinéma. Et vous n'avez jamais pensé passer derrière la caméra, justement ?
Pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Je vis dans une fiction permanente et donc ça me suffit amplement.
Le rendez-vous, La Rochelle, Festival international du film de La Rochelle.
Prune Anglaire, je sais que vous êtes très attendu pour ce festival, mais si vous avez le temps, vous pouvez rester avec nous. Notre invité surprise de festival festivalier, c'est Jean-François Stévenin, acteur, réalisateur, cinéphile. Je sais que vous venez régulièrement ici. La première fois que vous êtes venu présenter un film, c'était quand, Jean-François Stévenin ?
Ouh là 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 là, c'est une grosse histoire que je vais essayer de faire bref, parce que moi, je suis un petit gars du Jura, mère institutrice, père ingénieur. Bon, je me retrouve à Paris par hasard, et pour ça, quand j'entends Prune parler du Champollion, moi, c'est mes plus belles années, où j'allais, dès que j'ai intégré une belle école dans Paris, j'allais plus à l'école, mais j'allais au cinéma sans arrêt. Avant, c'était Lyon, après, c'était Paris, le Champollion, Sous-Bertrand, Diamantis, Saint-André-les-Arts, les Noctambules, etc., etc.
Je vois que vous avez à peu près les mêmes souvenirs.
Voilà. Mais... Et après, d'un seul coup, je suis arrivé quand même grâce à Jacques Rosier, Jacques Rivette, parce que j'ai eu un grand coup de bol quand même. J'ai attendu longtemps avant que ça démarre. J'ai écrit partout. Personne m'a jamais répondu. Je me suis retrouvé un jour. Je raconte tout de travers. Hein, ça fait rien.
Allez-y.
Je me suis retrouvé un jour à un concert de Jimi Hendrix. que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai ouais. pris un choc, je l'ai toujours le choc. Et ce jour-là, j'étais avec Elisabeth Rapneau, que je connaissais à peine, sœur de Rapneau, qui a entendu parler quelques mois plus tard d'un film qui allait se faire qui s'appelle La Chamade, d'Alain Cavalier, avec Deneuve et Piccoli. Et à l'époque, déjà, l'argent était rare, donc il cherchait un stagiaire de choc qui puisse faire le boulot d'un second. Alors, Cavalier m'a convoqué. J'ai dit, moi, je connais pas du tout le cinéma, sauf que j'étais 6 mois à Cuba sur un tournage de film, à Cienfuegos, la ciudad, mais que je vois pas du tout ce que je peux, j'ai pas les épaules pour ça. Et Cavalier, avec son air très cavalier, m'a dit, Jean-François, on va quand même essayer. Là, c'est parti.
L'essai a été transformé.
Et l'essai a été transformé. Et d'un seul coup, après, Barracade, il y avait Deneuve qui devait faire La Sirène du Mississippi, qui dit « Ah, mais moi, je connais un petit assistant, il est formidable. » Donc, je me retrouve La Sirène du Mississippi avec la star Truffaut. Et puis après, d'un seul coup, Jacques Rosier, Jacques Rivette, tout ça. Tout ça, ça m'a planté des petites graines. Je me suis dit « Mais Rosier, on a fait un film, on a fini, on était 4 personnes. Avec Rivette, on tournait à Autoine, on était 9. » Je me dis, mais si un jour, j'ai une vague idée, un peu d'avance sur recette, un truc, on va faire un film de potes. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
Vous avez fait un film de potes, le titre ?
Passe-Montagne.
Première projection, ici, au festival ?
Non, première projection à Paris, projection de travail, comme ça. Mmh. Et Michel Simon sort tout
Michel Simon, tout critique de cinéma, une voix de France Culture.
Tout rouge, et qui était un énorme mec de cinéma. Et me dit, le film vraiment m'embarquait complètement. Ce film se retrouve à La Rochelle, il est loin de la sortie. Je crois que c'est un des premiers festivals de La Rochelle, c'était je sais même plus quand. Il y avait John Borman qui était là cette fois-ci.
Le réalisateur de Délivrance.
Voilà, Délivrance qui m'avait naturellement c'était marqué plus que n'importe quoi. Et très ému, Michel Simon me dit, je vais emmener John que je te présente. Alors, je m'attendais à voir un grand américain avec un bandeau et une chemise à carreaux. Et je vois un jeune décorateur anglais intérieur, très calme, comme ça. Il me dit, je vais l'emmener voir le film. Je lui dis, mais non, la copie est pourrie, elle est jaunasse, il n'y a pas de sous-titres. Non, mais je lui ai expliqué pendant le film. De toute façon, il n'y a rien à comprendre ton film. Il n'y a qu'à se laisser guider. Ça. Le truc part. Moi, je profite d'être au bar pour attendre la fin de la projection. Mmh. Donc, je fais ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, je bois tout ce que je vois. Du coup, je rentre à l'hôtel parce que je veux pas affronter la fin de cette projection. Au milieu de la nuit, je me réveille et je rentre dans le Jura direct, sans dire au revoir à personne.
À personne, ni Borman, ni Simon, Borman, ni rien.
Michel Simon m'appelle quelques jours plus tard en me disant « Si vous pouviez passer à la maison, j'ai une lettre de la part de John à vous remettre. » Bon, alors là, j'y vais pas trop fier. Et là, il y avait une lettre, 3 pages recto verso, visiblement écrit à la sortie de la projection avec l'entête de l'hôtel et tout ça. Magnifique lettre, mais très détaillée. La rigosité âpre du son, le montage, le machin, détaillé. Et ça se terminait par, de toute façon, je peux pas le dire en anglais parce que je suis moins bien limité, de toute façon, vous et moi, nous serons toujours un peu étrangers sur cette planète qui pourtant est la nôtre. Sincerely yours, John Borman.
Prenons clair, vous voyez sur le point de réagir.
Oui, ce qui est drôle, c'est que Jean-François évoque des personnages qui sont tous venus, bien sûr, à La Rochelle. Et puis surtout, il en évoque deux qui sont là, qui sont... Alain Cavalier, Michel Simon et Jean-Paul Rapneau. Oui. 3 en fait, 2 cinéastes, mais 3 personnages importants. Et Alain Cavalier, depuis l'année dernière avec Le Paradis, a pris l'habitude, puisque c'est la 2e fois on peut parler d'habitude, de montrer son film en première publique avant la sortie, ici à La Rochelle. Et donc, nous allons montrer Le Caravage, le film qu'il vient de tourner avec Bartabas et son cheval préféré qui s'appelle Le Caravage.
D'accord. Et tout ça grâce à toi, parce que tu m'as fait le même coup il y a quelques années. Tu m'as dit, à partir de maintenant, tu viens tous les ans. C'est quand j'avais fait le petit hommage à John Cassavetes. On m'a dit, voilà, tu viens tous les ans, comme ça c'est réglé. Et du coup, Alain vient, il vient pas n'importe où, Alain. Ça, ce qui est formidable à La Rochelle par rapport à tous les autres festivals qu'on peut connaître, il n'y a pas de prix d'accès formidable. Il y a un accès public total. Il y a une liberté complète. Le pays est magnifique, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais c'est-à-dire qu'on peut parler...
Même s'il fait soleil, les salles sont pleines. C'est ce qu'on a vu.
Voilà.
C'est quand même ahurissant.
C'est quand même ahurissant. Et les gens peuvent peuvent te parler en toute liberté. Ils n'ont pas l'impression de te déranger parce que tu descends d'une limousine et qu'on dit « Oh, j'ai pas voulu faire une photo ou un machin ». Donc, il y a une espèce de liberté. On sent que c'est des fous furieux de cinéma. La projection de Cazavette, je me rappelle, bah alors, était pleine.
Pourquoi c'était vous qui faisiez donc la présentation de la rétrospective Cazavette?
Bah parce que à l'époque de Passe-Montagne, j'avais bizarrement mis au milieu d'un poste que j'avais inventé, continuité. Alors j'avais marqué mon prof de karaté, un cuisinier qui m'avait hébergé pendant 3 ans, et il y avait John Cazavette. Et ça s'est trouvé calé, mais vraiment en plein milieu. Donc tout le monde a repéré ce truc-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Cazavette, dans le film? Rien. Mais s'il n'y avait pas eu Cazavette, j'aurais jamais fait de film. Donc c'était une façon pour moi d'absolument de l'incorporer malgré lui. Donc quand il y a eu tout ce truc sur Cazavette, à chaque fois qu'il y a Cazavette, on nous compare. Et Grand-Perret a exactement les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire que on monte chez nous.
Patrick Grand-Perret qui a présenté donc cet après-midi son film en avant-première, Fui Banquero, oui.
Fui Banquero,
que vous connaissez parfaitement, puisque vous avez déjà tourné avec lui. Mmh. Et cette fois-ci, c'est votre fils qui tourne dans son film, qui tournait à Cuba, oui.
Donc avec Grand-Perret, on avait le truc qu'on a hérité de John, mais d'une façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire on monte chez nous pour que personne nous emmerde. La salle de montage est dans le garage, on partage les nouilles ou le reste, et on a une liberté. Alors au début, j'avais vu le film de Barthes, qui nous a complètement déclenché, qui était le film en noir et blanc qu'il a tourné sur John, qui était sur le montage de je sais plus quel de ses films en Californie. Donc ça semblait rigolo comme ça, mais après ça devient une nécessité. Plutôt que d'aller s'emmerder dans des bureaux avec des mains, avec des gardiens, avec des heures d'ouverture, de fermeture, là on est chez nous. On a envie de dormir, on dort. Il y en a un qui veut se lever tôt, il se lève. Moi, le montage de Mishka, on était 9 dans la maison.
Il va falloir préciser, le montage de Mishka...
Montage de Mishka tourné en 1840, tourné en 2000 et sorti en 2002.
Quel est le lien que vous avez véritablement avec le cinéma de Patrick Grand-Perret, vous, Jean-François Stévenin?
Lien, on a un double lien, de frangin.
Ouais.
On a fait des trucs que personne, surtout des individualistes comme nous, on allait en vacances à Montalivet. Nous, carrément, en louant un espace pour 3 caravanes. Avec femmes et enfants. Quand on nous connaît séparément, on peut pas croire qu'on va dans un camping municipal 3 semaines. Mais ça. Et ensuite, les films très costauds qu'il a commencé à faire.
Ouais.
Ensuite, le fait qu'il ait sauvé Piala. Moi, je dis, carrément.
Vous pensez à quoi?
Piala. Oh, il a tourné tous les trucs de Piala. Chaque fois que j'allais voir Patrick, il me disait, non, j'ai avec Maurice au téléphone. Au bout de 3 heures, je me barrais. J'ai dit, reste avec Maurice. Passe ton bac d'abord. Piala venait un jour sur deux sur le tournage. Mmh. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, moi j'ai fait 2-3 plans avec le flipper, avec la môme qui joue. Et il y avait une espèce de perversion dans tout ça. Moi je tourne Passe-Montagne, il y a Piala qui va me faire chier sur le tournage quand même. Pas directement, mais il est dans l'hôtel à côté. En train de me dire, ouais, parce que je lui avais proposé le film comme acteur à la place de Villeray.
Ah d'accord, tu vois, c'était dit, Piala au départ.
Oui, comme ça. Que j'avais proposé à Truffaut aussi. C'est dans les paniques quand on sent que le film va démarrer. Alors, puis Pierre me dit, oh non, moi je peux pas, tu vois. Puis c'est très bien, t'as pris Mademoiselle de Funès, Villeray. Bon, ça va être formidable. Tandis que moi, tu vois, oh, puis d'ailleurs, puis je peux même plus baiser. Tiens, je vais te montrer les papiers, une ordonnance. L'autre, il a 2 mètres du tournage. Tu vois, comme jeune metteur en scène, comme sa tête.
Pour quelle raison vous n'avez d'ailleurs jamais tourné avec Maurice Pialat?
Ah ben,
parce qu'on a regardé quand même cette filmographie énorme, vous avez tourné avec tout le monde, et pas Piala, alors qu'il faisait partie de votre famille de cinéma.
Ah, complètement. Mais alors, Piala me disait, toi tu comprends, il n'y a que dans tes films que t'es bon, parce que tu marches les bras écartés comme dans un western, t'es bâti comme ça. Mais on va faire quand même un truc, et j'étais avec Patrick Grand-Perret en train de tourner un western au Mexique, et Patrick était venu de Jean-Louis Buñuel, on était au Mexique, Patrick est venu me voir, je lui dis, je viens de recevoir un message de Piala qui veut que j'aille tourner sur Satan. L'autre il dit, n'y va pas, c'est une enculerie, il va te faire que chier. Mais j'ai dit, mais c'est dans 2 mois, tu rigoles, moi je me laisse pousser la barbe et tout, c'est dans 2 mois, j'y vais.
Bien sûr.
Moi je suis pas vraiment acteur, mais acteur quand même. Puis Alain me dit de venir, j'y vais. Ah, il s'était pas gouré. On est resté une semaine, à rien faire. Tu vois, l'autre disait ça va, ouais, bon, ça écoute. Puis le jour du tournage, il y avait une scène, 8 pages. Magasin spécial, 4 minutes 50, tu vois. Puis l'autre, il me dit, j'ai tourné ça avec machin, mais c'était pas bien, alors je la refais. je la refais avec toi. Bon, bah écoute, tu veux... on fait un vague-bout de répète. Donc tu dis, bah voilà, là t'es bon, mais tu vois, tu pourras jamais le refaire. C'est comme Depardieu, tu vois, ou comme tu vois, elle est bonne que quand elle dort, tu vois. Mais là, y a personne... Non, mais attends, on fait toute la journée. Loiseleux, mon pote Loiseleux, paix à son âme, parce que c'est un immense bonhomme, me dit, mais t'en fais pas les marques, Jean-François. Hein.
Va à droite, à gauche. Il faut préciser, Jean-François Stevenin.
Jacques Loiseleux, qui est immense opérateur. Voilà. Et qui me dit, non, mais tu veux où tu veux, tu vois, parce que moi, je me démerde. Je change de place, ça fait des champs contre champs. Tu dis, attends, là, ça devient très, très compliqué. On me dit d'aller là-bas, là-bas, là-bas. Et toi, tu me dis, mais démerde-toi, tu fais comme tu veux. Parce que, tu sais, Maurice, il aime bien ça. Moi, je fais les champs contre champs, mais ce qui compte, c'est qu'on tourne 4 minutes et demie d'un coup. Alors là, là, ça devient très, très compliqué. 4 minutes et demie, t'as le temps de sortir, de garer ta bagnole et de revenir. On fait ça toute la journée, tu vois. Mais avant de commencer, puisque je suis lancé sur Pierre, ouais. Pierre qui disait, mais tu vois, l'autre jour, il y avait un torchon là dans la cuisine, avec, il y avait un cajot, mais il n'y est même pas. Tout le monde s'en fout. Et puis il y avait ça, à un moment, aller chercher les images de Yann Dedey qui était pas loin et qui montait le film.
Le monteur,
et on regardait, ouais. Sur ma chaîne. Bah, tu vois, regarde, il y avait même une blouse pendue à la porte. Donc vers 6h du soir, on est là depuis 9h du matin, je dis à Maurice, on refait parce que tu avais trouvé ça naze, on pourrait peut-être essayer de faire, si tu veux. Ouais, bon. Oh, puis non, je crois que là, aujourd'hui... Non, fin de journée, on verra ça demain. Alors, naturellement, t'imagines, les casse-camions, les mecs qui casquent derrière, tout ça. Puis d'un seul coup, une demi-heure après, je suis là avec la Sandrine Bonner. Il y a Maurice qui vient, qui dit, maintenant qu'on est bien démaquillé, qui dit, non, on va quand même en faire une ce soir, histoire de mal dormir, comme ça. Ça sera peut-être mieux demain.
Vous l'avez invité, Prune, vous?
Non, Maurice jamais, mais
pourquoi? Je regrette
bien. Par peur. Parce qu'en fait, quand on a eu l'idée de le faire, un autre festival nous a devancé, tout simplement. Ah. Mais comme nous avions d'excellentes relations avec Sylvie Piala, ouais. Sa femme, nous avons en revanche organisé une exposition de ses peintures à la Coursive sur les lieux du festival. C'était la première fois que ses dessins et les peintures qu'il avait faites dans sa première jeunesse était exposée.
Étonnant d'ailleurs.
Il avait beaucoup de talent. Ouais. Et un beau jour, il a renoncé solennellement. Il n'a plus jamais pris un pinceau ou un crayon. Mais Sylvie avait mis de côté tout ce travail, ouais. De jeunesse et nous l'avait généreusement offert pour que nous puissions le montrer au festivalier.
Mais je dis ça, j'ai l'air très méchant.
Pas du tout.
Mais c'est tout ça, c'est de l'amour inversé, de la déception. Parce que le lendemain, on a quand même fait 13 prises. Ouais. Après, c'était samedi, dimanche, je suis rentré à Paris. Ouais. Et puis là, j'ai eu Maurice qui me dit, bon, bah t'as vu, on a essayé de faire des trucs, visiblement, ça va pas. Bon. Oh. Donc, ce grand-père m'avait dit. Donc, il a repris Arthur, son régisseur général, avec lequel il avait déjà tourné. Il a fait pareil avec Claude Berry, qu'il a viré au bout d'une semaine. Donc, c'est des rapports très... Mais c'est de la déception. Parce qu'on peut pas se dire, oh, j'étais avec ce con de Piala, que j'en ai à foutre. Ça te marque, ça me marque encore. C'est-à-dire que pendant les 4-5 années qui suivent, tu te sens vraiment un... Parce qu'autrement, tu te dis, mais si j'aurais dû faire comme le gros Gégé, qui craint d'ailleurs.
Gérard Depardieu.
Oui, le Depardieu, oui.
Le gros Gégé.
Qui craint, c'est-à-dire j'aurais mieux fait peut-être à un moment de l'attraper, de lui dire, viens, on va discuter un peu derrière le camion. En disant, alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Je t'en... Qu'est-ce qu'on fait là? Mais tu fais pas ça. Alors que, par exemple, je termine là-dessus, parce que c'est plutôt sympa, Nanar Brégier, qui était le chef machinot de Nuiten, se retrouve sur Détective à tourner avec Godard, puis Johnny Hallyday, puis tout ça. Ça dure.
Johnny Hallyday, votre grand ami.
Ouais. Et l'autre, il est là, et il n'a pas le droit d'être sur le plateau. Alors, le Nanar Brégier, moustache à la Brassens et tout, là, lui a chopé Jean-Luc. Il l'a pas attrapé physiquement, mais enfin, il l'a quand même bien attrapé pour lui dire, moi, je suis venu parce que je travaille avec Nuiten, parce que j'admire beaucoup ton travail. Si c'est pour fumer des clopes dans l'escalier toute la journée, eh ben, tu me le dis, et puis je rentre chez moi. Ben, à partir de jour, là, il a eu le droit d'être dans tous les plans du film, puis de regarder un peu ce qui se passait au cas où il se passait
quelque chose. Très bon imitateur, Jean-François Stevenin. Ouais, pareil pour Johnny.
Là, j'ai dit un truc... Pour Johnny, c'est très compliqué, tu vois.
Merci Jean-François Stévenin.
Merci à vous.
Merci à tous nos invités. Toute l'actualité du festival, eh bien, c'est sur le site du Festival de La Rochelle. On vient d'évoquer le film de Patrick et Émilie Grandperret, Fui Banquero. Il vient d'être présenté cet après-midi en avant-première. On attend les dates de sa présentation pour une sortie en salle. Et puis, bien sûr, la rétrospective de la famille Mac Malbaff se poursuit ici à La Rochelle. Et le festival, d'ailleurs, c'est jusqu'au 5 juillet. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Demain, une émission Nouvelle Génération avec la chorégraphe hip-hop Anne Nguyen et l'architecte Nicolas Delon. La désannonce, Benoît.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manu Fari, Naïssatou Ndoye et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez. À la prise de son ici à France Bleu La Rochelle, Nicolas Berthaume. Interprétation Massoumé Laïdji et à la réalisation Thomas Beau.
On remercie bien sûr toute l'équipe du festival, j'ai bien dit toute l'équipe du festival de La Rochelle et bien sûr l'équipe technique de France Bleu La Rochelle qui nous a accueillis. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, ben c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la comédie...
Française.
Non, française. Bonne soirée à tous et à demain.